L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Au lieu de penser la musique phrase par phrase ou seulement motif par motif ou juste par cellule mélorythmique, on peut encore raccourcir le niveau de discrétisation et procéder par points. Mais alors qu'il se revendique pointilliste, le compositeur Stephen Takazuji revendique aussi de faire passer dans sa musique hyper fragmentée un texte du poète romantique Leopardi. Si bien qu'il en sort une version hyper fragmentée de la poésie et peut-être même de l'idée de la poésie face à un monde qui vient s'y refléter dans sa violence la plus éclatante au regard de ce qu'elle a pu éclater, les formes qui viennent s'exprimer dans Il Teatro Rosso, une pièce d'une heure commandée par l'ensemble Noé Banda à Stephen Takazuji. Au lendemain de la création européenne d'Il Teatro Rosso au festival de Darmstadt, c'est à Darmstadt que Métaclassique a installé ses micros pour ce numéro fragmenté avec le compositeur Stephen Takazuji et la quasi-totalité des membres de l'ensemble Noé Banda. Vous entendrez la chanteuse Sarah Albou, le percussionniste Noam Birstone, le trompettiste Félix Del Tredici, l'ingénieur du son Gabriel Dufour-Laperrière, le vidéaste Wei Lin et la violoncelliste Émilie Girard qui, pour l'occasion de l'émission, est aussi la traductrice de Stephen Takazuji. Noam Birstone, vous êtes parmi les fondateurs de Noé Banda. C'est un nom qui vient de Mulholland Drive, le film de David Lynch. Pour vous, oui. C'est un imaginaire musical qui vous permet d'être autrement musicien que ce film ? Mon idée, c'est qu'en regardant Mulholland Drive, vous avez mieux compris ce que ça pouvait être que de devenir musicien dans la vie.
Oui, mais je pense que c'était juste comme l'idée de qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce c'est quoi la réalité. Ça nous a juste parlé, puis on voulait pas être un ensemble à la base. Ça fait que ça nous a juste permis de
d'être un non-ensemble.
D'être un non-ensemble, oui, vraiment. On pense toujours qu'on n'est pas un ensemble. Même si on a un ensemble qui s'est formé. Fait que je pense que ça reflète un peu ce thème de Mulholland Drive, de c'est quoi la vérité.
Mais de penser qu'on n'est pas en ensemble, ça aide à faire de la musique bien autrement que si on pensait qu'on était en ensemble.
Je pense que oui. Ça nous permet de faire des projets qui nous parlent vraiment, plutôt que se dire oh, on a sept musiciens puis il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec les sept musiciens.
Félix Del Tredici, vous êtes au trombone basse et dans Noé Banda, vous pouvez être mieux un non trombone.
Oui, je pense que j'ai fait plus de projets sans trombone qu'avec mon trombone. Moi, je prends l'opportunité quand je joue avec Noé Banda, c'est cool de faire des pièces de théâtre, de trouver un autre côté, parce que comme les autres, j'ai étudié la musique classique sur trombone. Les pièces qu'on a jouées ensemble, ça prend un autre côté complètement, pour moi. Alors, j'ai dit à Steve que normalement, je joue trombone basse, et oui. C'est très lourd, surtout pour l'épaule.
Oui.
Et j'ai dit, si c'est plus une pièce de théâtre à ce point-là, je peux juste jouer avec le trombone en plastique, c'est plus léger, et comme ça, je peux prendre un peu de focus sur les mouvements, les gestes.
Qui est-ce qui, dans Noé Banda, a eu l'idée d'aller chercher Stephen Takazuji?
Je pense qu'on a, ben, on a joué Sideshow en 2019.
Oui.
On était... Ben en fait, nous quatre, avec Émilie, moi... Félix, t'étais ici pour Sideshow à Darmstadt ou non?
Non.
Ok, mais Sarah était là aussi. Fait qu'on a vu Talia jouer Sideshow à Darmstadt en 2016.
D'accord.
Puis ça a été un peu dans les plans dans les prochaines années de le monter à Montréal.
Oui.
Alors là, on a monté. Quelques années plus tard, on l'a tourné au Canada. Et c'est à ce moment-là où on s'était dit avec Steve qu'on voulait développer un nouveau projet. Et c'est là d'où est venu Il Teatro Rosso.
Steven Takakzougi, vous allez être traduit par la violoncelliste Émilie Girard-Jarret, qui interviendra ensuite en tant que violoncelliste tout de même. On pourrait presque vous demander à quoi bon prendre un texte de Leopardi si c'est pour le fragmenter à ce point, c'est-à-dire lui donner aucune chance d'être intelligible en tant que tel.
That's the point. Yeah. I don't want the poems to be explicit in the music. I want them to be
Donc Steve souhaite que c'est à dessein que Steve utilise un texte qui ne soit pas intelligible. Son but, ce n'est pas que le texte soit compris. Il l'utilise plutôt comme une source d'inspiration. Donc les poèmes font partie de la note de programme, mais l'intention du compositeur est que l'auditeur doive excaver pour pouvoir atteindre une signification sous-jacente des poèmes. Il y a une forme de théâtre dans le théâtre, en ce sens qu'il y a différents niveaux de signification, et le compositeur évoquait l'idée de la cabine du concierge, qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo d'Il Teatro Rosso, où il y a différentes couches de sens qui cohabitent, et c'est, si j'ai bien compris, ce qui vous intéresse, Steven Takakzougi, dans cette approche d'accéder aux différentes couches de sens du poème. What do you mean by the janitor's closet?
You know, the janitor's closet scene is when you're not playing and it's muted. And that's listening from the perspective, not being even in the theater, but being in the janitor's closet, listening to the stage, right? So it's there, but it's very covertly implied, right? And there's all these things that are being suggested. It's like a subconscious, so nothing's going to be that explicit, it's going to be vague.
Au cours de la lecture, vous avez eu cette phrase récurrente, un peu comme un slogan, que Il Teatro Rosso était la défense de la poésie en ce temps. Est-ce que de la même manière que Noé Banda se définit comme un non-ensemble, vous définissez Il Teatro Rosso comme un geste de décomposition?
Oh, that's brilliant. You know, so many things are revealed slowly, even as we speak about the connection.
Donc, il y a de plus en plus de connexions qui ressortent entre la démarche de Noé Banda comme non-ensemble et
and maybe my music is
votre démarche comme compositeur.
The poetry is only suggested.
Donc, il est comme
de
considérer la poésie comme quelque chose qui soit suggestif ou suggérant, alors que ce que vous souhaitez, c'est de pousser cet aspect de la poésie encore plus loin. Donc, pensez une poésie qui ne soit pas nécessairement une poésie ou une musique qui ne soit pas nécessairement une musique ou qui ne soit pas nécessairement qu'une musique.
Just one more thing. The red theater is a metaphor of the subconscious, right? So.
Le théâtre rouge, c'est une métaphore du subconscient.
Yeah.
Sarah Albou, vous êtes la chanteuse de ce Il Teatro Rosso, soprano. En France, on a eu des débats assez pénibles sur la limite entre musique verbale et poésie sonore, comme s'il fallait absolument mettre une frontière disciplinaire entre les deux. Là, on a l'impression que vous avez déchiqueté le texte de Leopardi et que vous le restituez avec tous les moyens qui peuvent vous être donnés, d'une séquenza de Berlioz jusqu'à la poésie, je sais pas, de Jacques Blond, par exemple. Comment est-ce que vous pensez votre rapport au phonème quand c'est comme ça?
Le rapport au phonème?
Ouais.
Honnêtement, je pense pas beaucoup au rapport avec les phonèmes. Je pense quand même au texte, puis aux phrases, comme si c'était un autre langage. Parce que si c'était seulement des petits points, ce serait trop difficile vocalement, trop difficile physiquement. Donc, je reste dans la drame. Puis même... Même quand le texte n'est pas intelligible, j'essaie de trouver un sens dans les sons, de trouver une intention. Moi, j'ai pas de frontières disciplinaires. Je me dis que j'ai pas de frontières disciplinaires dans le sens que quand je fais quelque chose, je tire sur toutes les ressources que j'ai apprises dans tous les différents projets et dans toutes les différentes expériences artistiques et d'éducation de ma vie. J'ai beaucoup travaillé avec des compositeurs et compositrices qui utilisent les contours de la langue pour créer une musique. C'est comme demander c'est quoi la différence entre le théâtre et le chant. Et pour moi, je ne peux pas effacer mon corps et dire je suis une personne sur scène qui chante sans corps, sans incarnation d'émotion, d'histoire, même s'il n'y a pas un texte compréhensible.
Une espèce de pure voix.
Oui, c'est ça. Donc pour moi, il y a pas vraiment une frontière entre poésie et musique, c'est les deux sont dans les deux. Puis la musique, même si on n'entend pas les mots, même s'il n'y a pas de voix, il y a une poésie.
Gabriel Dufour-Lapierre.
Bonjour, Gabriel Dufour-Lapierre. J'ai fait le son. Donc, on parle de poésie et de compréhension de la poésie, de suggestion. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait parler d'association libre? Parce que vous avez parlé d'inconscient aussi. Donc, ce que je comprends de votre travail poétique, c'est que vous laissez à l'auditeur la liberté de faire ses propres associations. Est-ce que
associations when listening to the piece.
Absolutely, and the task of the listener.
Donc oui, l'auditeur est invité à interpréter à sa propre façon l'œuvre.
I mean, people after your performance were like they had to recover
because the c'est une œuvre qui est très ardue à recevoir pour un auditeur, pas seulement intellectuellement mais aussi physiquement. Steven nous disait que plusieurs membres du public, après les concerts, lui ont dit avoir reçu très, très violemment tout ce qu'on a traversé physiquement, les interprètes, au cours de la performance.
Parce que quand vous dites la défense de la poésie en ce temps, on entend bien que ce temps est compliqué et que donc la poésie, dans ce contexte, va aussi être compliquée. Et donc, fragmenter le discours à ce point, ce serait faire entendre qu'il y a une impossibilité à pouvoir vouloir dire encore.
In order to be able to express anything.
To be honest with you, Fragmentation is just an old habit.
Donc, pour être honnête, la fragmentation, c'est seulement une vieille habitude qu'il a.
Oui, mais on pourrait le poser autrement. La question, c'est que la partition, parce que c'est un endroit de cette idée d'impossibilité de vouloir dire, sur la partition, on a, pour la voix, bien spécifié qu'il y a des moments bel canto de la voix, et puis des moments où la voix est, moi je dis, empêchée, effectivement. Ouais. Et donc, l'œuvre, finalement, recrée un continuum entre ces deux lieux vocaux, en même temps que ça dialogue avec cette histoire d'un vouloir dire qui serait lui-même annulé.
Est-ce
qu'il y avait une question?
Oui, c'est ça. Bah, la question, c'est bien qu'il y a quand même une impossibilité du vouloir dire qui se trouve thématisée par cette façon de traiter la voix.
Saying in the way you treat the voice, being unable to express.
First of all, I'm American.
Et donc il est américain America et être américain est un des fondements de ce que serait cette identité et concerne le fait d'être pragmatique et d'avoir le sens pratique. C'est un stéréotype.
So, the fantasy, of course, is to escape this through art and to this notion of.
Et donc, c'est une forme de remise en question ou de défiance de sa culture. Really, c'est une forme de fantasme, cette impossibilité du discours qui s'oppose à ce pragmatisme et ce sens pratique.
Parce qu'il y avait eu des interprétations de 4 minutes 33 qui nous disaient que ça pouvait aussi bien être une espèce de manifeste pour les minorités, notamment sexuelles, qui n'avaient pas la parole et étaient empêchées dans leur parole que, justement, les symboliser avec une question silencieuse comme ça.
Yes.
Dans un contexte très américain, donc.
In a really American context. So that's is there? Can we make a parallel, for example?
Yes, absolutely.
Oui, tout à fait.
Gabriel Dufour-Laperrière, ça vous fait quoi d'être à Darmstadt?
C'est une superbe expérience parce que c'est tout un défi, ce projet-là. Et je sens qu'on est arrivé avec une présentation mature et bien assumée, donc c'est très agréable.
Et vous, la différence entre bel canto et son empêché du point de vue du travail sonore et sa captation pour sa retransmission, ça ne va pas être rien, quoi.
C'est un drôle de monde, je pense, dans ce métier-là d'ingénieur son. On est entre deux. C'est une approche, disons, classique, mais mélangée avec la nécessité d'avoir des techniques qui se rapprochent plus de la musique populaire, au niveau sonore qui est demandé, puis à l'intensité de certains moments. On est vraiment dans une zone hybride. Vaste.
Oui.
Il faut avoir plusieurs types d'oreilles à la fois.
Sans compter que les interprètes aussi doivent avoir plusieurs types d'oreilles. Ils sont équipés. Ils ont c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils entendent dans leur oreillette?
Ils ont la douce voix de Steve qui les accompagne tout le long.
C'est vrai?
Sous la forme d'un click-track.
C'est un click-track humain.
Ouais. Alors Steve a un talent caché de faire des superbes click tracks. Entre autres pour donc évidemment synchroniser tout l'ensemble ensemble, mais avec la vidéo et avec la bande.
One. Two.
Puis aussi de pouvoir suivre les mesures là. Donc il y a une énumération des mesures. La subdivision est assez fine.
Four.
Ça l'aide beaucoup pour se retrouver, d'autant plus que les musiciens ont, je parle en votre nom, mais les musiciens ont plusieurs gestes mimiques. Ils ont un rôle d'acteur, donc parfois ils doivent quitter la partition de vue pendant un certain temps. Ils ont des postures à prendre, ce qui fait en sorte qu'inévitablement, c'est facile de perdre le fil du temps. Donc, le click-track sert à ça. Il y a aussi quelques clous sonores pour annoncer des gestes à venir ou des sections qui vont changer, etc. Oh.
Ah.
Émilie Girard-Charest, donc vous êtes la violoncelliste de ce projet et vous avez donc tout un répertoire de mimiques en effet que vous devez décliner au cours de l'œuvre. Comment elles sont désignées sur la partition? Alors des fois vous froncez les sourcils, des fois vous êtes au bord des pleurs, c'est soit paniqué, pleuré, inquiète.
En fait, en ce moment, elles sont pas dans la partition où elles ont été écrites à la main.
D'accord.
Donc dans la partition qui nous a été donnée au départ, on avait les notes, les rythmes, on avait, disons, le squelette. Mais tout ce qui relève de la physicalité, tout ce qui relève des expressions faciales, c'est des choses qu'on a rajoutées au fur et à mesure. Essais, erreurs, suggestions, blagues qui finalement sont restées dans la partition. Et c'est assez intéressant parce que on se rend compte que de l'un à l'autre, on n'a pas noté les choses de la même façon. Et on a eu beaucoup d'argumentations, à savoir, ici, c'était une grenouille, ou est-ce que c'était un ours, ou est-ce que c'était... Donc, on sait... Non, les animaux, je crois qu'on s'entend. Je pense qu'on en est même, quoique. Mais il y a beaucoup de choses que... Puisqu'on a travaillé sur la pièce pendant tellement longtemps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et il suffit qu'on n'ait pas noté la même, l'information de la même journée pour qu'on n'ait pas tout à fait les mêmes informations.
Ouais.
Et évidemment, cette information-là passe par notre filtre et les notes qu'on prend, elles sont personnelles. Donc ça va être le défi de Steven dans les prochains temps, de compiler toutes nos parties séparées et de voir comment ça sera rédigé, parce qu'en fait, nous-mêmes, on ne le sait pas encore.
Ah donc, ça a vocation à intégrer la partition, parce que je me suis demandé à quel point c'était l'univers de Noé Banda, donc aussi de Lynch, qui était dans ces mimiques, plutôt que les instructions de Steven.
Posons-lui la question.
Oui, posons-lui la question.
So, we're wondering about, he was asking about the facial expressions that we're doing. And he was asking, how are they written in the score? So I was like, well, now they're not in the score yet. They're in all our separate parts. And the question is, how will they or will they be included in the score?
Yeah, so a lot of the theater, perhaps even most of it, was workshopped in rehearsal with the musicians collaborating with me. And so many of these things.
Donc la plupart des expressions faciales et de tout ce qui relève de la théâtralité ont été travaillées en workshop avec les instrumentistes.
What's in the score might be references to like trapped animals or some imagery or metaphor.
Et pour l'instant, elles sont dans les parties séparées de chacune.
With the ball, basically, and find the theater. So it's not in the score, but they will, hopefully, they will send me their parts.
Steve espère qu'on les lui envoie après les concerts pour les intégrer au score. Ceci dit, à ce stade, il n'imagine pas nécessairement que d'autres personnes la jouent. C'est pas impossible, mais c'est une pièce qu'il a vraiment imaginée.
The idea of other people reading the score at some point is just not in my head right now.
Or 70. One.
C'est une pièce qui a été créée à Montréal parce que Noé Banda est montréalais. La première fois qu'elle est jouée en Europe, c'est pour cette édition 2025 du festival de Darmstadt. Comment vous l'expliquez, vous, Noam?
Ben, c'est un honneur, un privilège d'être ici pour faire ça.
Oui.
On s'était jamais dit comme « Ah, dans 5 ans, on veut jouer à Darmstadt ». Mais l'opportunité est venue qu'on avait cette pièce, puis... Puis qu'on pouvait la jouer ici. Alors c'est...
Parce que ma question, elle était aussi à l'endroit de qu'est-ce que cette pièce par rapport à l'histoire de ce festival. C'est vrai que d'entendre ce matin Steven dire en lecture que 90% des matériaux ont été générés par des séances d'improvisation en workshop, j'ai mal compris.
Non, c'est ce qu'il a dit, mais c'est un mensonge.
C'est 100%.
Mais
c'est 100%, c'est ça?
Non, c'est moins.
Ah, c'est moins.
Mais après, on peut...
D'accord. N'empêche que le mot improvisation a été prononcé à Darmstadt ce matin, qui n'aurait peut-être pas été possible il y a, je sais pas, 30 ans. Enfin, comment vous l'entendez?
Oui, ouais. Mais je dirais aussi que pour les costumes, puis le film de Hui qui est ici avec nous, le fait que Jeff qui faisait l'éclairage aussi, c'est, je pense, de pouvoir amener un spectacle tellement complet, tellement coloré aussi, dans toutes ses façons. Je pense que ça, c'est... Je suis juste venu à Darmstadt je suis venu il y a 10 ans, c'est sûr que ça a changé, mais je pense que ça sort un peu de la norme de ce qui se fait ici, puis il y a un côté, oui, c'est une pièce vraiment intense, demandante, puis ardue.
Ardue.
Ardue, merci. Mais il y a aussi de l'humour, une légèreté, un petit côté coquin aussi à l'œuvre. Et oui. Je pense que ça nous représente beaucoup comme Noah et Banda, puis c'est quelque chose que... qu'on est fiers de pouvoir présenter n'importe où, mais surtout à une place comme Darmstadt.
I started with your materials. That was the, you know, it was like,
donc il y avait 90% des matériaux qui venaient d'improvisation,
right?
De l'ensemble, ce que certains membres nous ont mis en question. Et vous nous avez répondu que non, il y avait même des improvisations de votre propre cru en tant que wannabe Noah et Banda. And this leads to the next exchange we had, which was about how does that feel for all of us here to present that kind of piece in here in Darmstadt and to pronounce the word improvisation in a lecture in Darmstadt. How Darmstadt-y do you feel the piece is or isn't?
I mean, improvisation, I mean, maybe 40 years ago was there was a binary between improvisation and composition. It's just,
donc cette frontière stricte entre écrit et really improvisé, pour Steven, ça appartient plutôt à une génération antérieure à la sienne, il y a 40 ans, plus ou moins, donc génération qui l'a connue, mais pour lui, c'est plus du tout d'actualité de faire cette distinction.
Pour autant que vous faites une démonstration extraordinaire que, à partir de matériaux improvisés, faut-il un score pour que advienne quelque chose d'aussi radical?
That's what I talked about. I create frames. I think the frames are really interesting in relationship to the improvisation. As a composer, let's just say the frames are a kind of a way to highlight.
Steven considère qu'il propose des cadres, en fait.
Things shine.
Des cadres qui permettent à certains éléments de briller. Et la distinction majeure pour lui entre improvisation et composition, ce serait le en temps ou hors temps.
The idea for a composer is that they can spend hours just contemplating maybe moving this here or that there, right? But we all improvisers do the same thing.
Il souligne aussi une certaine notion de spontanéité que certains improvisateurs évoquent. Qui, selon lui,
for some improvisers, they really believe in spontaneity, right? But the idea of just being
relativement vrai, en ce sens que qu'il soit pas possible de faire une réelle tabula rasa.
Kind of, not ever standing outside of time is probably.
Et de plus en plus, il est fréquent de mêler écrit et improvisé.
That's why the distinction between composition and improvisation has melted over the decades.
C'est même un peu en vogue.
And now, in fact, it's rather very trendy. I would even say to incorporate improvisation into composition and composition into improvisation. So.
J'ai beaucoup déliré en regardant le spectacle à imaginer le pourquoi des paillettes, en me disant que c'est un outil parfait pour diffracter la lumière et en même temps la renvoyer un peu partout. Ça traduira peut-être le travail des lumières ensuite, mais pour vous, les paillettes, elles sont une espèce de support de réflexion de ce que vous faites aussi, de vos expressions sonores?
Certainement, oui. Les paillettes m'aident immensément à faire mon travail.
Pourquoi?
Dans la pièce.
Ouais.
Mais la personnage m'aide à réaliser techniquement ce que j'ai à faire. Donc, le fait de performer la pièce avec ce petit côté coquin, et même dans les parties où je me fâche, le fait que ce soit fait dans la mélodrame, dans les gros gestes, ça facilite le travail vocal.
C'est-à-dire la caractérisation?
Oui.
Parce que les regards que vous jetez au public sont très déterminés dans leur caractère, tandis que ce que vous chantez parfois reste indéterminé, justement. Et donc c'est la rencontre de ça est troublante. Enfin, c'est comme si une espèce de relative fixité des intentions théâtrales vous plaçait dans une totale liberté musicale, ou pas tant que ça?
Ça me place dans une liberté physique, parce que si on se disait c'est de la musique sérieuse, nous sommes dans un festival de musique sérieux, ce serait autre chose complètement, réaliser la même partition sonore, la partie sonore. Donc le fait d'avoir un peu de liberté avec les gestes et de pouvoir faire des grands gestes, un peu de ridicule, les gestes qui touchent à la ridicule, ça libère la voix, ça libère les possibilités vocales. Puis le fait qu'on soit tous habillés en paillettes aussi nous réunissent. C'est juste le rituel de s'habiller, de se maquiller ensemble, créer une synergie incroyable dans le groupe.
Noam Birstein aussi, oui.
Ça nous met dans, comme tu disais, ça nous met dans des personnages qui nous permettent de faire des choses qu'on ne ferait pas autrement.
Il y aurait quel nom votre personnage? Parce que c'est la question de sa qualification. Que...
What would my character be called?
Well, Laurie called you Gigolo yesterday.
Oui, c'est quoi Gigolo en français?
Oui, il y a un peu les archétypes
Steven
de la comédie et de la tragédie.
Oui, puis Steven parlait du cinéma L'Amour à Montréal,
oui.
Qui est un cinéma de films pour adultes.
Oui.
Puis...
Vous voyez, quand c'est joyeux, c'est facile à faire des sons comme ça.
Puis... On voulait représenter cette idée-là à travers la pièce. Puis les costumes, ça rejoint dans ça, ça nous sort. C'est un peu slutty. Non, mais je sais pas c'est quoi le mot. Un peu
burlesque.
Ouais, un peu burlesque.
Mais un peu obscène.
Un peu limite obscène. Comme ça pourrait aller là. Ça nous permet juste de sortir de notre cadre de musicien. Et même si la musique elle-même est très demandante, difficile, ça on sait faire. Même on sait comment travailler la musique pour arriver à où il faut arriver. Mais être acteur, c'est plus difficile pour nous en tant que musicien. Alors tout ce qui peut nous aider à sortir de notre comme cadre de musicien plus classique, plus sérieux, ça nous permet de faire ces gestes complètement extravagants.
J'ai l'impression qu'il y a un côté provocateur aussi, dans le sens où ça crée de la signification aussi, ça fait l'auditeur se questionner justement sur qu'est-ce qui se passe là.
Maïline, alors on a introduit la question du cinéma, fallait donc être plus proche du cinéma pour adultes ou du cinéma de Lynch?
C'est une bonne question. Ouais, vraiment les deux. C'est ça, parce qu'en fait, la première inspiration pour ce projet, en fait, c'était le cinéma L'Amour à Montréal. Je pense que c'est un cinéma qui date des années 40, je crois. Donc vraiment, ça a un look assez classique. Ça vit dans le même univers que les films de Lynch, fait avec le rouge. Il y a le côté, c'est ça, à la limite obscène. Donc pour moi, ça appartient à la même univers, en fait.
Et la façon de filmer un peu en boule aussi, c'est quelque chose qui est très lynchien pour
ouais,
le coup.
Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait.
Et ça participe de ce burlesque en même temps que ça le déforme un peu et puis que ça lui donne un statut pas que burlesque, on dirait que ça... Ouais.
Ouais, tout à fait.
Ça inachève le burlesque. Ouais.
Oui, c'est ça. C'est ça, je voulais créer des distorsions, disons. Ouais, c'est un peu early. Exactement, c'est ça. Je voulais trouver plusieurs moyens de varier le côté visuel à travers tous les films, parce que vraiment, mais ça dure à peu près un peu moins d'une heure. Mais pour moi, c'était super important de créer ce genre de variations partout. Voilà. De créer une mentalité genre surréaliste. C'est ça, parce que je voulais pas que le film soit ancré dans une époque ou l'autre. Je voulais que ça vit vraiment à part. Genre, ça pourrait exister quelque part, mais c'est pas dans notre monde actuel.
Parce que il y a aussi le fait de zoomer vraiment très proche sur certaines ouais. mimiques font que ces mimiques deviennent quasi des grimaces, comme les grimaces ouais. qu'on adresse à des photographes, c'est-à-dire une réponse aussi au médium.
Ouais, pour moi en fait, c'est ça. Ça fait référence à notre monde actuel avec les téléphones portables et tout ça, parce que maintenant tout le monde est photographe ou vidéaste. Et c'est ça, je voulais que le film a des aspects du réel et des aspects du surréel.
Gabriel,
si je me permets d'interpréter ton travail, oui. Dans la pièce en général, il y a un élément important qui est le double.
Donc, oui, parce qu'on revoit à l'écran les interprètes que l'on voit sur le plateau faire parfois la même chose.
C'est très omniprésent, autant dans l'interaction entre la bande où l'on entend les instruments jouer, les instruments morts, comme dit Steve, les instruments live, mais il y a aussi des éléments avec le vidéo, on voit les musiciens costumés aussi. Donc, il y a toujours un jeu pour l'auditeur de mise en lien. Mais il y a eu la brillante idée aussi d'utiliser ça par moments dans le film, notamment à la fin, avec des effets de feedback visuel, donc ce qui filmait la projection de ce qui était filmé, donc ça donnait des super belles effets très hypnotiques là, à la fin. Bravo.
Et puis, à un moment, Steven devient acteur et vient disposer des boules sur le clavier d'un piano. Alors là, c'est une scène qui sort de la logique de doublure, parce que exactement. Steven n'est pas au plateau. C'est un scénario que vous avez imaginé, Bailey?
Oui. C'est ça. Donc, en fait, le personnage, il a un nom, il s'appelle Harold. C'est parce que...
Et pourquoi il s'appelle Harold? Alors, c'est le seul qui a un nom dans cette histoire, c'est ça?
C'était un secret.
Ah, d'accord.
Ouais,
Même nous, on ne sait pas.
Ah d'accord, on ne sait pas.
Oui, mais Harold, c'est un personnage, c'est une version de Steve qui existe quelque part. Il existe dans un univers, dans le multiverse, mais je sais pas. C'est Steve, mais c'est pas Steve.
So what the ping pong balls was so brilliant. The ping pong balls, colored ping pong balls.
La manière dont Rui a travaillé dans cette scène où Steven dépose des balles de ping pong colorées sur le clavier du piano.
And that's actually what I do as a composer.
Est très brillante en ce sens qu'elle représente la manière dont Steven compose. Où il essaie d'organiser de petits éléments pointillistes, mais finalement, il est submergé par une marée statistique qu'il doit ensuite nettoyer à l'aide d'une serpillière.
Enfin, l'éclairage n'a pas hésité à isoler des espaces techniques, comme si ça prolongeait l'idée d'une fragmentation avec des individus très isolés, des caractères très marqués, qui est très marqué évidemment par la dernière scène.
composition, like the sound composition.
Oh, definitely. I feel like we're getting into the inner psyche of each musician here. There's a moment of isolation in each spotlight that highlights the musician in their entirety. But as a group, they should be considered as a whole. So the lighting mimics that in
c'est tout un jeu en fait entre l'individu et le collectif où ce que Jeff a voulu faire c'est de mettre en lumière au sens propre et figuré la vie intérieure et le sentiment d'isolement de chacun des interprètes, de chacun des personnages.
Without completely washing them out or completely isolating them. There's a very tight line that we must walk, and especially in live performance.
Tout en appartenant à un groupe, donc le défi c'était de naviguer cette ligne fine entre l'individu et le collectif.
Fallait-il s'affranchir du rouge?
Like free from the red.
The use of color in this live performance, especially as we and I have talked about previously, it becomes sort of a rock show. In a
donc
space
le
like
défi
this in Darmstadt,
dans l'utilisation de la couleur, c'était de créer l'impression de spectacle rock et de créer pour cette foule considérable de 200 personnes ce sentiment à la fois de collectif et d'individuel. Et de tout l'aspect multidisciplinaire qui touche à la fois au théâtre et presque au cirque. Et c'est ce que la couleur, l'utilisation de la couleur participe à souligner.
Sachant que les lumières d'un concert de rock et du cirque ne sont pas du même endroit, ne sont pas dans les mêmes chaleurs aussi.
Sure. So if rock is really. Rock lighting is meant to.
Donc dans la musique rock, ce qu'on voudrait c'est exagérer le contraste dans l'éclairage. Donc de penser de marier un éclairage qui soit plutôt du dessus versus un éclairage qui soit plus frontal, donc de travailler sur les deux niveaux. Oui, donc le contraste en fait, c'est ce que Jeff souhaite mettre en lumière avec les angles, les lumières, les ombres et cet équilibre en tous ces aspects.
Une question pour Gabriel Dufour Laperrière. Je rappelle, vous faites le son du Théâtre Rosso. Est-ce qu'il y a des traitements en live?
À part un peu de réverbération, non.
Ah, c'est très light alors en termes de oui.
D'effet. Non, d'effet, l'essentiel est dans la bande. Steve, quand même, travaille certains sons électroniquement.
Oui.
Qui se retrouvent dans la bande. Mais c'est assez fin, son travail. C'est assez instrumental tout au long. J'ai juste, à un moment, triché un peu, j'ai mis un octavier qui donne un octave en dessous plus grave sur la cuica pour lui donner du corps. Mais c'est très subtil. C'est très subtil. Je me suis gâté.
Puis, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Parce que
bien sûr.
Gab parle pas de tout le travail, ouais. Tout le travail qu'il fait de live mixage tout au long de la pièce.
Oui.
Fait que, oui, il n'y a pas tant d'effets ajoutés, mais il est un musicien tout aussi important que nous autres, et pas plus important.
Encore plus.
Il a son solo, en fait, dans la pièce. La partie où on... La plus forte, c'est le solo à Gab.
Ah oui.
Où il pousse au maximum qu'il peut dans les circonstances, puis il nous couvre complètement.
Oui.
Nous, on est en train de réagir au gros impact de la bande.
Ah oui, d'ailleurs, Émilie, avec un peu d'avance, ça veut dire qu'ils sont écrits, les impacts?
Oui, ils sont écrits et ils sont indiqués dans le clic.
D'accord.
Donc ça fait partie des indications.
Il y a Steven qui vous dit dans l'oreillette, sautez.
Qui nous dit, ready, set, go.
Ready, set, go. Ready, set, go. Ready, set, go.
Nine. 90.
Ouais. Sachant que dans la façon dont vous mixez les sons préenregistrés et les sons produits en live, il y a vraiment une volonté de synthèse.
Oui, tout à fait.
Vous démarquez pas les deux espaces.
Non, c'est le but, c'est de rendre les deux le plus proche possible. Je dois un peu imiter la sonorité du piano, par exemple, qui se trouve dans la bande, les timbres, en fait, le plus possible. Puis de trouver une proximité avec la marge dynamique puis les comportements dynamiques des instruments de la bande avec les instruments live. Au niveau de la réverbération aussi, c'est tous ces petits détails-là qui font en sorte que le but, qu'il y ait un aspect d'illusion, qu'on finisse par se demander qui joue quoi. Donc encore là, l'idée du double, c'est vraiment ça l'objectif.
Avec des égalisations identiques.
Égalisation, volume, ouais. Contrôle du volume, un peu de réverbération aussi. Puis surtout, une constante attention au niveau de chacun des instruments par rapport à ce qu'ils jouent dans la bande aussi. Donc, tout au long du concert, c'est vraiment un travail de suivi pour m'assurer qu'on entend bien tout le monde, mais au même niveau des instruments qui sont dans la bande, pour que, justement, ça soit presque indéterminable.
J'avais une question pour Steven sur le rapport au filtre. J'ai cru comprendre dans la lecture ce matin, mais j'ai parfois une écoute un peu spéculative de l'anglais, que vous aviez un rapport d'exploration au filtre, que en fait les filtres vous servent comme les improvisations à explorer des possibles, même si après vous pouvez les reconstituer instrumentalement. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ce serait un outil d'exploration pour regarder par rapport aux questions de notes empêchées, comment différents modes d'empêchement de la note ou des choses comme ça? Ouais.
Of impeachment restriction or like not being able to do something.
I use filters as a compositional technique of erasure. You know, when you erase something, a pencil, for example, some still is there, right?
Donc, so, plutôt qu'un mode d'empêchement, ce serait plutôt la notion d'effacement qui est importante par rapport au filtre. Et donc, ce que Steven nous dit, c'est que quand on efface quelque chose avec une gomme, il en reste toujours une certaine portion. Et donc, c'est des choses que par le filtrage, qu'il exécute de manière informatique, mais symboliquement, c'est l'idée d'une gomme qui efface, mais qui laisse la trace de ce qui était présent antérieurement.
Mais qui est bien utilisé au niveau de la préparation, qui n'est pas forcément utilisé véritablement dans la bande.
The recording is there, and then erasure or filtering is applied to that object. So you have some kind of passage that I've composed and I like. It's not just the samples, but it's been organized.
Donc, le filtre est utilisé à partir d'une première étape de travail où il y a une certaine quantité de matériel qui a été organisé et il repasse dessus pour enlever même jusqu'à 50% du matériel d'origine à l'aide des filtres.
Maybe only 10% is left and it's vague. And yet you feel the directionality.
Et par-dessus, les musiciens jouent, improvisent par-dessus cette bande qui a été filtrée.
Ça veut dire que vous faites attention, malgré ce qu'on vient de dire avec Gabriel, à la complémentarité spectrale entre la bande et les instruments en live.
Complementary or polyphony. So the opposite of the complementary. I guess that's in some ways a relationship. What's nice about
donc plutôt qu'une complémentarité spectrale, Steve parle d'une polyphonie spectrale. On a différentes couches, mais non seulement différentes couches, mais différentes temporalités. Donc cette couche filtrée, qui serait une forme de continuité dans le temps. Un canevas, on parlait de quatre tout à l'heure, sur lequel se déposent les solos, les spasmes et les interventions instrumentales.
Parce que puisqu'on parle canevas, il y avait la question du climax, donc de réfléchir la forme à l'échelle de l'heure entière. Ça, je me suis demandé si ça venait aussi bien du choix des poètes ou bien de Lynch ou des deux, et comment ça se combine.
The Well, so obviously there's this big build-up in the first movement, right? I mean, that's what I meant by classical notion of hitting a high point and leading up to that. So the second, the in the middle, there's this what I call clean geometry. It tries to critique what that.
Donc on a différents moments dans l'œuvre. And premier climax qu'on pourrait considérer comme classique, voire même romantique, très traditionnel.
So stupid, basically, right? And it's like, you know, whatever romanticism was in that energy in that
qui est suivi d'une série.
Here we have something that's just math.
And then Fibonacci, the second movement is, toute simple, also stupide, pour citer le compositeur. Donc cette opposition entre une énergie qui soit très, très émotive, émotionnelle, une énergie complètement mathématique et finalement une troisième, un troisième temps qui soit celui d'une forme de continuité, d'une forme d'immobilité en mouvement qui mène à ce qui évoque pour lui la noyade.
Donc il y a une noyade.
So there's a drowning.
Yeah, but it's an ambiguous drowning because it's death but listening. I mean, it's the poem, right? It's the child that's.
Donc c'est une noyade qui est ambiguë, qui se réfère au poème.
To the sweetness of the
et donc
bell,
il y a les notions de
dead and drowned mort, under the foam, under the surface, and
et la notion
how is that
d'écoute
possible,
qui sont fondamentales. L'image d'un enfant mort,
poetry,
la présence de sa mère,
a
qui sont très importantes.
Reality, right? And so, yes, there's a drowning, but and there's a notion of death and listening in death, but it's not exactly a negative, even though.
Cette question que j'ai oublié de traduire de la réponse précédente, qui est à laquelle
clearly
a fait référence Stephen dans la lecture ce matin et à laquelle il est revenu tout à l'heure.
Because, Edward Thomas,
c'est la question de donc le plus délicat, le plus profond et le plus profond, le plus délicat ou le plus tranquille, the quieter, qui revient aussi à ce moment-là. Et donc cette présence de la mère qui est incompréhensible à la fin du poème, qui évoque l'utérus et qui est l'image, la métaphore du théâtre rouge.
As well as a death.
Noam Birstam, comment est-ce que vous avez entendu dans la lecture de ce matin l'articulation que Stephen introduisait entre la critique et la poésie? L'idée, si je comprenais bien, que peut-être la poésie est finalement plus viable que la critique?
Oui, je pense que là on revient à une question d'il y a tellement, pour un public, il y a tellement d'interprétations qu'on puisse avoir de la pièce. Et je pense que c'est ça ce qui est spécial, on veut que les gens en parlent, en discutent, qu'ils ont une réaction et pas une réaction de juste comme une réaction conventionnelle de musique, parce que bien sûr on est dans un cadre où tout le monde est là pour apprendre plein de puis critiquer, mais si on peut toucher quelque chose d'émotionnel, une réaction même physique. Pour nous, ça, c'est bien plus important que quelqu'un qui nous dise « Ah, vous avez... vous étiez vraiment ensemble.
» C'est vrai que c'est un peu triste, oui. Quand ouais. En même temps que, quand même, vous étiez vraiment ensemble. Faut le faire, oui.
Oui, oui. Si je peux me permettre, en fait, c'est, pour rebondir sur ce que Noam disait, ça me fait penser à un commentaire qu'ont fait deux compatriotes canadiens ce matin en arrivant avant la lecture. James O'Callaghan et Cassandra Miller qui ont assisté à la performance et qui parlaient de la générosité dans l'écriture, générosité de permettre à l'auditeur, l'auditrice de se faire sa propre interprétation.
Mais alors ça tient à quoi? Ça tient à ce que vous menez pas l'élan de caricature jusqu'au bout, que vous restreignez un tout petit peu vos postures pour pas... Parce que vous vous définissez comme freak, beaucoup plus que comme kitsch pour le coup. Il était question de kitsch ce matin. Comment?
Ouais, je pense que c'est une bonne distinction. Ouais. Freak versus
kitsch.
Kitsch. Ouais, c'est une bonne question. Mais je pense que c'est surtout l'ambiguïté auquel Steve tient là-dedans qui permet ça aussi, cette générosité-là.
Elle n'est pas que dans Noé Banda, elle est aussi dictée, dans l'écriture de Steve.
C'est-à-dire que je pense que Steve évite l'aspect programmatique dans sa musique avec les poèmes, justement avec cette déconstruction-là, les filtres, ces algorithmes, ce qui laisse à l'auditeur...
Ah oui, ça fait que le programme est en creux, du fait que le texte soit dans cet état-là.
C'est pas dicté, en tout cas.
Ouais.
Ouais. Je pense qu'on veut suggérer des choses, mais on veut pas définir.
Oui.
Et même... Pour nous, il y a des choses qui sont peut-être très claires, même, tu sais, on parlait des animaux tantôt, puis il y a des moments où on est tous...
Vous faites les chiens, quand même.
Mais oui, bravo, oui. Mais il y a les chiens, il y a la grenouille, il y a le castor, il y a l'ours, et il y a l'écureuil. Mais comme...
Le poulet.
Oui.
L'écureuil, petit suisse. Oui.
Chipmunk. Slash...
en tout cas, voilà. C'est même pas clair pour nous.
Un hybride.
Mais ça, c'est des choses qui nous aident à embody... C'est quoi,
incarner
un caractère. Mais c'est pas pour que... Puis c'est pas pour dire comme... Oh, il faut que tout le monde comprenne qu'on est une grenouille à ce moment-là.
Puis je pense aussi que si nous, on sait... Ce qu'on fait, ça va avoir un effet, ça va être clair, même si le contenu n'est pas clair.
Ça veut dire qu'il ne faut pas trop le savoir. Parce qu'il y a quand même cette question de ce que... on voit bien que vous êtes volontairement bizarre, mais que ça vous pose quasi problème parce que vous ne voudriez pas non plus surjouer.
Mm-hmm. Mais bizarre, ce n'est pas assez d'informations. Donc, je pense que le défi, c'était d'être convaincu de ce qu'on fait. Puis, si on est convaincu et concentré sur quelque chose, même si cette chose n'est pas perceptible pour le public, ça donne un effet assez cohérent. Ce n'est pas une bizarre complètement chaotique.
C'est exactement ce qui s'est passé en répétition. Par rapport au fait d'éviter de surjouer. En fait, pendant toutes les répétitions, Steven nous a dit qu'il fallait ne pas exagérer, que ce soit juste, ne pas trop en faire. Et plus on approche du concert, plus c'est more. Et finalement, on a eu un peu tout au long des répétitions l'indication contraire de n'en faites pas trop, mais surtout faites-en plus. Et voilà, on est quelque part au milieu de tout ça.
Mais pour vous, faire l'animal, ça renvoie à quoi? C'est-à-dire à...
Ça vient de la partition. En fait, toute cette section qu'on a précisée parce qu'elle est très longue et parce qu'elle était difficile à soutenir. En fait, l'idée de préciser les animaux, ça venait de la difficulté à soutenir une longue section où on devait être des animaux emprisonnés. Trapped animals.
Ah donc, oui, emprisonnés.
Des animaux piégés, au sens propre.
D'accord.
Donc ça, c'est une indication qui est dans la partition et sur laquelle Steve est revenu en répétition, qu'on devait physiquement se sentir comme avec l'agressivité de l'animal qui veut se libérer d'un piège. Mais toute cette section, je ne saurais pas dire, mais c'est des minutes et des minutes, là. C'est très long. Mm. Et donc, c'est que l'énergie se perdait. Et l'idée de varier les animaux, c'était de varier les corps. Donc, ça permettait à la fois de renouveler l'énergie parce qu'on n'était pas dans la même gestuelle et de renouveler l'écoute ou le regard pour ne pas avoir le même visuel qui soit continu pendant toute la section.
Puis, le fait d'avoir fait une genre de dramaturgie collective de la pièce, tout au long du processus, nous a permis de s'investir totalement. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme les animaux, comme d'autres moments avec des mouvements.
Les moments de tristesse.
Oui, la tristesse qu'on discutait entre nous, on se regardait, on a pris beaucoup de temps pour trouver un processus ensemble.
Oui, ça c'est peut-être à souligner, c'est que ce processus de rajouter le théâtre à l'œuvre, ça s'est fait sur plus de 2 ans. Et ça s'est fait à travers les répétitions, le tournage du film, les répétitions suivantes, les spectacles. Fait que ça se rajoutait à chaque fois.